Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de l'Agenais avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Radio Bulle.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et je suis très heureux donc de vous retrouver pour une toute nouvelle édition inédite de Chut, on écoute la télé, consacrée en partie à la sortie du troisième album de La Lune au Soleil de Najwa Belizel qui fait son grand retour. Elle sera avec nous d'ici quelques minutes pour nous parler évidemment de son retour, mais aussi eh bien, du passé avec Gabriel. Eh bien oui, c'était un numéro 1 du top 50 à l'époque, c'était un carton complet. Eh bien en tout cas, on souhaite le même succès à Najwa qui sera avec nous donc d'ici quelques instants pour nous parler de ce troisième et nouvel album qui vient de sortir dans les bacs. Et puis du côté de l'infomédia, eh bien, nous ferons une incursion sur le tournage du film Péril au château du côté de La Rochefoucauld avec Claire de La Rochefoucauld, la réalisatrice, qui nous délivrera les premiers secrets de tournage. Nos coups de cœur télé de la semaine avec notre spécial Candice Renoir. Nous aurons le plaisir de recevoir le couple terrible de Candice Renoir, Raphaël Langlais et Cécile Bois seront nos invités exceptionnels. Et nous terminerons eh bien, cette émission avec notre coup de cœur ciné de cette semaine, consacré au nouveau film d'Olivier Barou, Just Gigolo, avec Annie Dupéré qui nous fera l'amitié d'être avec nous, d'être notre invité exceptionnel en fin d'émission. Donc vous l'avez compris, c'est un programme chargé qui nous attend. Alors sans plus tarder, on passe aux audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on commence bien évidemment par lundi. Joséphine Ange-Gardien qui arrive en tête des audiences avec son épisode de Far West. Et c'est un beau score, hein, 19,1% de part de marché pour 4 331 000 téléspectateurs. Mario Premier Regard sur M6 résiste bien avec 2 728 000 téléspectateurs. Thalassa sur France 3, toujours un petit score, hein, avec 1 813 000 téléspectateurs. Et la série Trapped sur France 2 peine toujours à trouver ses fidèles, 1 752 000 téléspectateurs seulement. Mardi, c'est le capitaine Marlowe qui écrase littéralement la concurrence avec un record d'audience, 7 704 000 téléspectateurs pour 32,8% de part de marché. Du coup, les autres chaînes se partagent les miettes. L'Arme Fatale a dû se contenter de même pas la moitié, 3 314 000 sur TF1 avec à peine 15% de part de marché. Recherche Appartement ou Maison s'effondre à 2 millions de téléspectateurs et 8,6% de part de marché. Enquête de Santé sur France 5 réussit à passer péniblement le million de téléspectateurs. Quant au documentaire Narcotrafic sur France 2, c'est l'effondrement avec moins d'un million et 4,6% de part de marché. Et mercredi, c'est France 2 qui tient sa revanche avec Quand sort La Recluse avec Jean-Hugues Anglade, 4 641 000 téléspectateurs pour 20,5% de part de marché. Décidément, ce n'est pas la semaine à TF1 qui, avec Grey's Anatomy, peine à réunir 3 373 000 téléspectateurs pour 15,5% de part de marché. La compétition fait rage du côté de Top Chef sur M6 avec 2 477 000 et 13% du public. Jeudi, sans surprise, c'est Section de Recherche qui arrive bien évidemment en tête des audiences. Et puis vendredi, eh bien c'est Koh-Lanta qui arrive à se hisser évidemment en tête des audiences aussi.
L'album de la semaine.
Allez, c'est notre coup de cœur musical de la semaine, puisqu'on est très heureux d'avoir ces nouvelles en tout cas. Et c'est un troisième album qui sort pour Najwa Belizel, qui est notre invitée d'honneur aujourd'hui. Bonjour Najwa.
Bonjour. Bonjour Alain, ça va?
Ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir. Si tu savais depuis le temps qu'on attend de tes nouvelles, qu'on attend un nouvel album. Et ça y est, il est sorti vendredi.
Ouais, enfin, voilà, je vais te dire, tu sais quoi, maintenant je suis un peu perdue, parce que cet album ne m'appartient plus, et maintenant il est, voilà, il est à vous, il est au public. Ouais, je suis un petit peu déboussolée, je suis super heureuse, donc j'ai l'impression d'être dans l'ivresse. Voilà, c'est le mot exact, c'est l'ivresse. Merci beaucoup de m'avoir invitée, et puis je suis super contente, voilà, pour moi c'est un grand jour.
On va se donner un rendez-vous de La Lune au Soleil dans un instant, mais faisons un petit bond dans le passé, puisque c'est en 2005, enfin l'automne 2005 pour être précis, que tout s'est précipité pour toi. Et écoutez, c'était Gabriel, et ça je suis sûr que c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui. On écoute un petit extrait. Gabriel. Voilà, c'est sur toutes les lèvres ce titre. Ça a été un tournant dans ta carrière, hein, Najwa.
Quel plaisir de réentendre cette chanson parce que c'est la mienne, hein, certes, mais je l'écoute pas tant que ça. Donc franchement, ça me fait super plaisir qu'elle soit diffusée et que voilà, j'ai le cœur qui bat à fond là. ouais, c'était il y a pas mal de temps quand même.
Exactement. Alors tout s'est précipité en 10 ans avec Gabriel, mais aujourd'hui tout ça, on va dire que tes anges gardiens. Christophe Cazenave en fait partie?
Oui, ben, Christophe Cazenave, c'est celui qui a révélé la chanteuse qui était en moi, on va dire, parce que j'étais pas du tout, enfin, je me prédestinais pas à faire ce métier-là. Moi, je faisais des études de droit. Voilà, je voulais être avocate, je voulais défendre le plus faible et le plus pauvre. Et c'était un peu, voilà, ma philosophie. Et puis, donc, j'ai entamé des études de droit. Et puis, par la suite, j'ai un peu séché les cours, c'est pas bien, je sais. Surtout que bientôt, il y a les épreuves du bac et du brevet. Bon, bref. Du coup, j'ai séché les cours et je suis allée regarder des annonces de casting. Et en allant regarder des annonces de casting, j'ai vu apparaître devant moi une annonce qui disait rechercher une chanteuse sachant danser ou une danseuse sachant chanter. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'étais dans une espèce de... J'avais 19 ans, j'étais assez jeune. J'avais envie de m'amuser, de profiter un petit peu de la vie avant les études. Et j'ai passé ce casting-là sans vraiment imaginer quoi que ce soit. Et puis on m'a rappelé, Christophe Cazenave m'a rappelé en me disant, oui, bah t'as été choisie. En fait, on m'a choisie pas parce que j'avais des talents de chanteuse ou de danseuse, mais juste parce que voilà, j'avais le peps. Et ils ont bien aimé la manière dont je m'étais présentée. J'étais un peu faux-folle à l'époque. Voilà, beaucoup d'énergie et que j'essaie de garder d'ailleurs aujourd'hui. Et puis Christophe, ça lui a plu. Et ce qui lui a plu encore plus, c'est que j'étais venue à ce casting-là avec un dossier avec tous mes textes, parce que j'écrivais déjà à l'époque. J'écris depuis l'âge de 13-14 ans. Alors avant, c'était sous forme de poèmes, parce que j'avais pas de musique, j'étais pas compositrice. Donc j'écrivais beaucoup de poèmes, des comme ça, parfois un peu sombres, parfois un peu lumineuses. Et puis voilà, il a craqué sur mon côté, je sais pas, poète maudit. Il comprenait pas pourquoi j'avais autant de blessures à mon si jeune âge et tout ça. Et donc du coup, ça l'a... Voilà, il s'est penché sur moi. Et puis quelques temps plus tard, on a enregistré donc Tourne-toi Benoît. Ça, c'est une chanson que j'ai faite en 2002. Donc bien avant Gabriel. Et puis par la suite, j'ai sorti mon premier album en 2006. Et ça s'appelait Entre deux mondes en équilibre. Voilà. Et tu vois, c'est un drôle de voyage parce que je voulais pas du tout faire ce métier-là. Je suis tombée dedans par accident et c'était un très bel accident. Et aujourd'hui, je remercie la vie et les anges, comme tu dis, de tout ça parce que c'est magnifique.
Alors, on sent bien dans ta voix, c'est certainement ce qui a peut-être fait craquer Christophe aussi, mais on sent bien dans ta voix, dans ton grain de voix musical, cette influence de deux pays magnifiques, le Maroc et l'Égypte, et qu'on ressent vraiment au travers tes musiques et le grain de voix, hein, que tu nous donnes aujourd'hui.
Alors, concernant le grain de voix, comme je te disais tout à l'heure, j'étais pas quelqu'un qui... Enfin, je chantais un peu comme tout le monde, comme toutes les adolescentes, j'écoutais voilà des chansons à la mode, la radio, j'écoutais beaucoup Madonna, etc. Et puis j'avais pas forcément de personnalité vocale ou... Et en fait, lorsque j'ai rencontré Christophe et qu'on a fait Tourne-toi Benoît, ça c'était une chanson dans laquelle j'ai participé en tant que choriste et en tant que danseuse. Vous pouvez aller trouver ça sur YouTube, il y est toujours. C'était c'est un assez gros tube en 2002. C'est génial.
Ah oui, qui vous avait valu d'aller sur le plateau du Hit Machine et tout, sur M6, c'était de la folie.
J'ai même eu un disque d'argent. J'ai posté une photo il y a pas très longtemps sur mon Instagram, voilà, si vous avez envie de regarder, c'est rigolo. Et il y avait Bruno Guillon qui a tourné dans le clip d'ailleurs, c'était en 2002.
Un Charentais maritime d'ailleurs, de notre région, Bruno.
Ouais, voilà, c'est Bruno, il est génial, je l'aime beaucoup. Et il avait craqué sur le morceau, et ça avait été très diffusé sur Énergie et Fun Radio à l'époque. Et puis voilà, là, on est encore en contact, je le suis sur Insta, il me suit aussi sur les réseaux sociaux, et c'est nickel, parce qu'on a, voilà, on a ce souvenir-là en commun, et c'était super. Et ensuite, enfin un peu plus tard dans l'aventure, c'est-à-dire vers 2003-2004, je voulais arrêter tout ça parce que ça ne me correspondait pas. Voilà, par rapport à mon mental, par rapport à ce que j'avais en tête, c'était pas, voilà, aller chanter dans les boîtes de nuit ou faire la faux-folle, c'était pas du tout mon état d'esprit. Et puis par la suite, Christophe m'a dit, mais tous les textes que tu as écrits, il faudrait en faire quelque chose. Et moi, avec beaucoup de prétention, je lui ai dit, oui, je veux écrire pour les autres. mais il me dit, tu veux écrire pour qui? Je dis, bah, je sais pas, pour des stars. Et puis il m'a ri au nez en me disant, mais c'est génial de vouloir faire ça, mais comment tu vas t'y prendre? Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai rencontré des gens. Et puis j'ai pas rencontré de stars, mais j'ai rencontré une jeune fille qui était tout à fait anonyme, mais qui avait beaucoup de talent, et j'ai décidé d'écrire pour elle. Et elle a commencé à venir enregistrer donc les chansons. que j'écrivais pour elle avec Christophe. Elle a commencé à moins prendre les choses au sérieux que moi. Ça a fini par un peu m'agacer. Et elle a laissé tomber. Elle voulait pas vraiment faire ça. Du coup, un soir, je me suis retrouvée en studio, toute seule, avec mes textes et avec Christophe. On s'est regardé et il m'a dit, mais qui d'autre mieux que toi peut interpréter tes mots? M-O-T-S et tes mots M-A-U-X. Et c'est là qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'était en 2003, et j'ai dit, bah ok, d'accord, mais je sais pas chanter. Il me dit, mais si, essaye. Et puis je me suis retrouvée donc derrière le micro. Et la première chanson que j'ai enregistrée s'appelle Née de l'amour et de la haine. C'est une chanson donc que j'avais écrite pour Ludivine. Et comme elle avait laissé tout tomber, bah j'ai repris un peu le... En fait, quelque part, elle a tout quitté pour que je prenne la place qui était pour moi en réalité, finalement. Et j'ai eu du mal à m'approprier cette place-là parce que j'avais l'impression de pas...
Être légitime.
Exactement, tu m'as volé le mot. Parce que moi, je voyais des jeunes filles se battre, faire des castings, vraiment vouloir à tout prix chanter et danser. Et moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Je voulais juste écrire dans mon coin des choses qui résonnaient en moi. Et puis, comme j'étais pas capable de le faire, sûrement par pudeur, du coup, je me retenais. Et puis, Christophe m'a un peu poussée, en fait, m'a un peu forcée de manière poétique et gentille. Hein. Il m'a pas tabassée non plus, mais... Mais voilà, et du coup, je le remercierai toujours parce qu'il a vraiment révélé ça. Et par contre, au niveau de la voix, comme je savais toujours pas chanter, il s'est avéré qu'il avait un logiciel à l'époque, qui existe toujours, hein, c'était un vocoder, on appelle ça un vocoder. C'est un appareil qui peut transformer les voix. Aujourd'hui, il y a de grands artistes et de grandes stars qui l'utilisent alors qu'elles ont des voix de diva. Je pense à Rihanna, à Sia, à Britney Spears. Parce que ça donne juste un aspect un peu plus fou à la voix. Du coup, voilà, quand tu écoutes ton toi Benoît, je sais pas si tu te souviens, mais c'était très robotisé.
C'est vrai.
Du coup, moi, j'ai appris à chanter et à enregistrer avec cet appareil-là. Du coup, ma voix, elle s'est... j'ai commencé à faire des yodels naturellement. Alors, les yodels, c'est quoi? C'est Gabriel, j'attends. Comme je savais pas retenir les notes, je me suis amusée à insuffler de l'émotion, à insuffler de l'air et pour retenir la note parce que je savais pas du tout le faire techniquement. Et c'est ce qui m'a valu, voilà, tout ça qui a fait que j'ai appris à prendre le dessus sur mes émotions, ma peur de pas savoir tenir de notes, ma peur de pas être à la hauteur par rapport à d'autres chanteuses, d'être ni une chanteuse à texte, ni une chanteuse à voix, enfin, j'arrivais pas à me situer. Et au final, j'ai trouvé cette signature vocale qui m'a plus jamais quittée. Enfin, ou peut-être l'inverse, je sais pas. Et voilà, du coup, maintenant, ça fait partie de moi et je peux pas chanter autrement que comme ça. T'as vu, j'ai l'accent qui arrive là, je sais pas pourquoi.
C'est ça, c'est parce que justement, on va découvrir un premier extrait de ce rendez-vous de La Lune au Soleil. L'album vient de sortir vendredi dans les bacs, en physique. C'est un vrai plaisir de te retrouver pour ce grand retour, en tout cas, Najwa. Voilà. Et on va découvrir cet extrait que moi, je trouve que c'est une véritable bombe musicale. C'est Tu me laisses aller. Il est sorti il y a quelques jours en clip. Et c'est le deuxième extrait de l'album que tu nous as offert. Et on se l'écoute maintenant si tu veux bien.
Super, avec plaisir.
Tu me laisses aller.
Tu ne fais que...
Voilà, tu me laisses aller. Alors, très beau nouvel extrait hein, de cet album qui vous donne rendez-vous de la lune au soleil avec Najwa Belizel. Tu restes avec nous, Najwa, on revient dans 3 minutes.
Avec plaisir, oui.
Eh ben allez, à tout de suite. Non, Chut, on écoute la télé, on revient. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'album de la semaine.
Allez, de retour en live dans Chut, on écoute la télé avec Najwa Belizel qui fait son grand retour avec ce troisième album. Rendez-vous de la lune au soleil, il est sorti vendredi dernier, dans les bacs. Et donc Najwa qui est justement avec nous pour en parler de ce troisième album, l'album de la renaissance et en même temps un troisième album fidèle à ton passé, à Gabriel et à tous les titres qui ont fait ta notoriété depuis 2005.
C'est joliment dit. C'est ouais, comme tu disais, c'est la continuité de ce que j'ai fait. J'ai essayé en tout cas de garder les bases. Pour moi, les bases, ce sont les textes, les mots. Alors, je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écoutent la musique sans écouter. Enfin, ça a toujours été le cas. Moi, il m'arrivait d'écouter des artistes sans écouter spécialement les textes. J'avais juste envie de danser ou d'oublier. Et le challenge pour cet album-là, c'était ça. C'était de parler de sujets profonds et difficiles et vrais. Ce que j'ai toujours plus ou moins fait sur mes albums. Et en même temps, donc, de leur faire oublier le texte parce que j'avais envie juste de les faire danser.
Mmh. Ah bah, c'est très dansant, tu me laisses aller, qu'on a écouté il y a quelques instants.
Moi, quand j'écoute tes chansons, je me sens happée. Je me sens prise complètement, presque dépossédée. J'ai envie de danser et tout ça. Et on n'écoute pas spécialement le texte de suite. Et j'avais envie que les gens, voilà, et à la seconde ou la troisième fois qu'ils... se disent « Ah ouais, mais en fait, là, elle parle quand même de ce sujet-là, par exemple, des attentats au Bataclan, ou alors du viol, ou bien de l'inceste, ou bien de ces choses-là, voilà, qui sont pas forcément... Enfin, qui sont très, très difficiles à aborder. Et en même temps, on peut pas se cacher et faire semblant que ça n'existe pas, parce que ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on est malheureusement bercé par ça, c'est notre actualité à tous, c'est le commun des mortels. Et c'est de combattre tous ensemble cette violence-là, et ce terrorisme-là, cette peur-là de vivre, tu vois, et pour notre futur aussi. Moi, ce qui m'a aussi ouvert les yeux, c'est que entre mon deuxième album et ce nouvel album-là qui est sorti vendredi, eh bien, je suis devenue maman. Du coup, j'ai un regard qui est différent aussi sur plein de choses et qui est encore plus ouvert sur l'avenir. Et du coup, voilà, pour moi, c'était super important de pas faire un retour juste pour... chanter, danser et parler d'amour ou de l'été. J'avais très, très envie de me servir de ces armes-là et donc de l'actualité difficile et du genre humain, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est très difficile. Et heureusement que la musique existe parce que c'est la musique aussi qui nous fait oublier ces choses-là, qui nous les rappelle et qui nous donne un peu la force aussi de continuer, de se battre, de transmettre, de partager. Et moi, je trouve que j'ai énormément de chance de faire ce métier-là et c'est génial, tu vois. Et je dis pas que j'ai aucune prétention, je dis pas que je vais changer le monde ou quoi, mais je pense que voilà, en mettant le doigt sur des choses plus ou moins difficiles ou quoi, et ben on va pouvoir tous ensemble gagner et faire en sorte que tout se passe mieux ou qu'on ait un meilleur monde. Et puis voilà, et donc par exemple, voilà, cet album-là, il parle de tout ça, il parle de l'amour.
T'as tout composé, tu les as toutes écrites, les chansons de cet album?
J'ai écrit tous mes textes, et ça c'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, ça c'est vraiment le truc qui fait que... Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la légitimité que je recherchais en tant qu'artiste au départ, parce que j'avais l'impression de pas avoir de voix ou pas avoir de pas donner de sens aux choses. Et c'est le fait que j'ai eu envie d'écrire. Je pensais pas atteindre autant de cœurs. Quand j'ai écrit mon premier album, on sait pas ce que ça va donner. On sait pas comment vont réagir les gens. Et bon, bah, Gabriel a beaucoup marché en 2006. J'étais très, très heureuse et très surprise parce que je m'y attendais absolument pas. Mais il y a d'autres chansons qui sont méconnues du premier album. Je pense par exemple à chansons comme Rentrer aux USA ou Dr. Gel. Je pensais pas qu'il y aurait un impact aussi fort. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu des retours de mon public et de mes fans, j'ai reçu beaucoup de courriers de gens qui se retrouvaient dans mes chansons et qui me remerciaient d'avoir écrit sur tel ou tel thème. Bon, par exemple, Dr. Gel, c'est un thème très, très délicat parce qu'il parle des attouchements sexuels et de la pédophilie. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir libéré la parole et d'avoir soulevé le tabou chez beaucoup de jeunes filles qui, grâce à mes chansons, avaient pu dénoncer leurs prédateurs et leurs bourreaux, tu vois. Et du coup, je me suis sentie super fière et j'étais très contente parce que je me suis dit, elle est là ma mission en réalité, parce que je cherchais une sorte de légitimité. Ouais, est-ce que j'ai le droit de chanter ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ou pas? Mais il n'est pas là. C'est pas une question de droit. c'est une question de devoir. Mon devoir était de j'ai une plume, j'ai un micro, ben essaie d'en faire le meilleur usage que tu puisses. Et puis voilà, ben, jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai la chance que ça continue puisque je viens de sortir mon nouvel album. Et c'est qu'il y a des gens qui ont accroché, qui ont aimé et qui sont dans l'attente. Et qui m'ont attendu jusqu'à maintenant. Tu sais que j'ai la chance d'avoir je les appelle ma tribu d'anges et mes béliséliens, mais j'ai vraiment un public très personnel et très particulier qui est là depuis le début, qui m'attend encore, même après 9 ans d'absence, tu vois, c'est juste incroyable.
Et dont on fait partie nous aussi.
Et voilà, mais dont tu fais partie Alain, et je suis super heureuse aussi, j'ai conquis des cœurs, vous avez aussi conquis le mien aussi, et je pense que c'est un véritable échange, parce que c'est vrai que c'est délicat de se dire, ah tiens, je vais écouter une chanson, ça parle de viol, t'as pas spécialement envie d'écouter une chanson qui parle, et en réalité c'est pas ça qu'ils recherchent, c'est qu'il y a un véritable échange, il y a comme des solutions cachées, j'ai l'impression, tu vois, de faire des thérapies, par exemple, moi je sais que ça me fait beaucoup de bien d'écrire là-dessus, et ça m'exulte énormément, et j'ai l'impression que ceux ou celles qui l'écoutent, ça leur fait la même chose, et que du coup, quelque part on crée comme un antidote. Enfin, je sais pas, c'est un peu spécial de dire ça. Je suis peut-être perchée, mais j'ai l'impression de formuler tout ça.
Eh ben écoute, en tout cas, est-ce que la composition a été également aidée avec Christophe ce coup-ci?
Comme tu me disais tout à l'heure, enfin, Christophe Cazenave est la personne qui m'a révélée et c'est devenu mon acolyte. Enfin, quelque part, des fois, je dis ça pour l'embêter, mais on est comme un duo. Parce qu'il aime pas que je dise ça, mais pour moi c'est comme un duo, sauf que c'est moi qui suis mise en lumière, mais on fonctionne exactement comme ça. Moi j'écris un texte, il me fait la mélodie, ou alors c'est l'inverse, il a déjà une mélodie que j'entends et je me dis, ah mais comment tu sais que, comment tu as su que ça allait me faire ça, parce que forcément il a
une chance. Oui, vous connaissez par cœur tous les deux.
Ouais, c'est quelque chose, artistiquement il y a quelque chose de très fort, et humainement, je pense que si humainement il n'y avait pas eu d'accroche, peut-être que ça aurait été différent. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément appris et qui m'apprend encore tous les jours. Il y a une manière de composer. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un orfèvre et qui me compose des choses sur mesure. Et lorsque tu as la chance d'avoir quelqu'un comme ça à tes côtés, pourquoi changer? Parce que souvent, on m'a dit, t'as jamais eu envie de travailler avec un autre compositeur et tout ça. Et c'est pas que j'en ai jamais eu envie, c'est qu'il y a eu des opportunités. À un moment donné, par exemple, j'avais rencontré Pascal Obispo. Oui. J'ai rencontré aussi Calogero sur plusieurs. Enfin, Marc Lavoine, avec qui j'ai travaillé aussi, j'ai fait un duo qui s'appelle Viola, qui est dans mon deuxième album. Mais c'est pas que ça le faisait pas, c'est que j'avais déjà Christophe et que c'était magnifique. Enfin, les chansons, elles sont. Enfin, voilà. C'est comme si l'empreinte était déjà. Voilà, c'est déjà pris, ça peut pas être une autre empreinte.
Alors parlons un petit peu du futur pour le coup, parce que si tu avais envie d'un quatrième album par la suite,
oui,
est-ce que justement.
J'ai envie d'un quatrième album.
exactement, on y pense déjà. Est-ce qu'il y aurait des artistes français, que ce soit masculin ou féminin, avec lesquels tu adorerais faire un duo?
Moi, j'ai un artiste qui tape dans mon cœur depuis pas mal de temps, c'est Stromae. Ça, c'est le nom qui ressort de manière, voilà, comme une fusée. Stromae, c'est quelqu'un que j'admire énormément et j'ai l'impression, dans son ambiguïté, de retrouver la mienne ou dans la mienne, retrouver la sienne. Et quelque part, c'est bien d'avoir un très bon modèle comme ça devant soi, parce que du coup, on est que motivé. C'est une personne, en plus, voilà, et on a en commun Jacques Brel, et c'est ce qui fait que, voilà, j'ai toujours trouvé un pont entre lui et moi. Et si un jour ça devait arriver, je sauterai sur l'occasion, je dirais oui.
Ah bah, faut pas hésiter.
Ah, oui.
Bon, en tout cas, tu vas avoir la cote en Nouvelle-Aquitaine, j'en suis sûr, à partir d'aujourd'hui.
Ah, oui.
Ne ratez pas ce rendez-vous de la lune au soleil. C'est le troisième album de Najwa Belizel.
J'adore beaucoup région. Enfin, j'aime beaucoup Bordeaux. J'adore.
Et je sens que tu vas y venir très vite. Je sens que tu vas y venir très vite. On va s'organiser ça, bien évidemment, pour te faire venir dans la région et venir à la rencontre de tes fans et de nos auditeurs, en tout cas. Najwa, qu'est-ce que t'en penses si on partait cheveux au vent ensemble?
Avec plaisir, allez, on s'écoute ça.
Eh ben allez, cheveux au vent, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle, rendez-vous de La Lune au Soleil, troisième album de Najwa Belizel, c'est déjà dans les bacs. Merci Najwa, à très vite.
Merci à tous, à très très bientôt, je vous embrasse fort.
Je
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News.
News.
Tout de suite, l'infomédia.
Juste avant de vous emmener sur le tournage de Péril au château de la Rochefoucauld, avec Claire de la Rochefoucauld qui sera avec nous dans quelques petites secondes, eh bien, quelques infomédias bien évidemment à vous délivrer, puisqu'à partir du mois prochain, la chaîne YouTube de C'est mon choix proposera 10 nouvelles émissions inédites produites spécialement pour la plateforme, toujours présentées par Evelyne Thomas. Ces nouvelles émissions tournées en public seront diffusées tous les 15 jours à partir du mois de mai prochain. Un programme toujours très populaire, en particulier auprès des femmes des 13-34 ans. Evelyne Thomas, une animatrice très appréciée du public, des émissions largement plébiscitées sur le web, autant d'indicateurs évidents qui nous ont posé à proposer eh bien, des inédits de C'est mon choix sur YouTube en gardant tous les ingrédients qui ont fait de cette nouvelle émission un succès, expliquent Jean-Baptiste Clavery et Guillaume Wanneroy, les dirigeants de Réservoir Prod, dans un communiqué. 12 ans après avoir été diffusée sur France 2, l'émission Un jour, un destin, présentée par Laurent Delahousse, va changer de case et de chaîne. Le vendredi 3 mai prochain, 21h, France 3 accueillera donc le célèbre programme de portrait. Pour ce nouveau numéro, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire sur un monstre sacré du cinéma français qui est Alain Delon. Lancée en 2007, l'émission Un jour, un destin était diffusée depuis septembre 2015, le dimanche, en seconde partie de soirée sur France 2. Alors, à noter donc cette nouvelle programmation et ce nouveau jour, donc, pour ce documentaire consacré à Alain Delon. Dans un communiqué, le groupe TF1 annonce la diffusion en intégralité de la Coupe du Monde de rugby. Celle-ci aura lieu, je vous rappelle, du 20 septembre au 2 novembre prochain au Japon. Après le succès des précédentes éditions, notamment lors de la finale 2011 opposant la France aux All Blacks, avec quasiment 18 millions de téléspectateurs, le groupe TF1 offrira au public français en clair l'ensemble des 48 matchs de la Coupe du Monde de rugby 2019, précise-t-il, et d'ajouter que pour la première fois, un seul groupe média diffusera donc la compétition en intégrale en clair. Le groupe TF1 montre une nouvelle fois sa capacité unique à proposer les plus grands événements au plus grand nombre. Et le mardi 30 avril prochain 21h, M6 lancera un nouveau jeu musical Together, tous avec moi, présenté par Eric Antoine. Des chanteurs solo ou en groupe et de tous genres musicaux vont à tour de rôle se présenter devant la scène de Together, tous avec moi, et devant un jury de 100 professionnels de la musique de tout horizon et autres personnalités hautes en couleur. Parmi ces 100 personnalités au goût et aux sensibilités musicales parfois radicalement différents, des stars de comédie musicale ou de cabaret, des choristes, des auteurs-compositeurs, on y retrouvera notamment notre ami David Bann qui sera dans le jury de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Et je vous emmène tout de suite, donc maintenant, comme promis, à La Rochefoucauld sur le tournage de Péril au château.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va partir du côté de la Charente sur le tournage de Péril au château avec la réalisatrice de ce film qui est en préparation pour France 3 et en tournage actuellement. C'est Claire de La Rochefoucauld qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors, qui pouvait mieux que toi tourner Le Péril au château à La Rochefoucauld quand on s'appelle Claire de La Rochefoucauld?
Alors, plein d'autres réalisateurs auraient sûrement fait des très beaux films, mais peut-être ils n'auraient pas eu l'idée que j'ai eue, c'est-à-dire d'utiliser le château de la famille et la légende de la fée Mélusine, la fée protectrice de La Rochefoucauld, pour écrire un polar régional comme France 3 sait si bien les faire.
Alors Claire, comment tu as fait pour décider justement la famille de mettre ce château en scène? Est-ce que c'était facile?
Oui, oui, très facile. Ma tante Sonia qui habite les lieux et qui a remonté de toutes pièces ce château qui n'avait pas été habité depuis 400 ans. Elle est, elle, dans les murs depuis les années 80 et à force de courage, d'obstination, d'aide aussi de la région, du département, elle a pierre à pierre remonté et redonné de l'éclat à ce château. Et comme dit Sonia, un château vide, c'est horrible. Pourquoi y a-t-il des poutres sur les plafonds des châteaux si c'est pour qu'il n'y ait personne en dessous? Donc je crois qu'elle est très contente de nous accueillir et en tout cas on est merveilleusement accueillis ici.
Et un très beau casting, évidemment, puisque vous verrez Annie Dupéré, Jean-Charles Chagache-Bagnon, que vous adorez évidemment pour son rôle de Franck Ruiz dans Plus belle la vie. Et pas que, il y a plein de monde qui sont sur ce film. Lène Cesaré qui est déjà venu tourner dans notre région sur Le Meurtre en Pays d'Oléron il y a un peu plus d'un an.
Oui, Jean-Claude Dauphin, que les plus anciens, oui, peut-être pas les jeunes générations, mais les autres ont vu dans plein de films, plein de longs métrages, et puis surtout la dernière série qu'il a faite, Avocat et Associé, c'est là où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Nadia Fossier aussi, qui est une habituée de la télévision, que j'avais déjà fait travailler dans Vogue la vie. Stéphane Wojtowicz, que j'adore, qui joue le réalisateur dans la série Hard sur Canal+, et qui est actuellement tournée aussi au théâtre dans la pièce du même nom. Voilà, donc je me suis entourée d'un très beau casting. Annie Dupéré et Jean-Charles Chagache-Bagnon, dès le début où j'ai eu l'idée de faire un polar à La Rochefoucauld, j'avais dès le début envie de créer ce couple Voilà, donc elle est à la fois la duchesse qui habite le château, mais elle est aussi mère du village dans l'histoire. Un meurtre a lieu au château pendant une réception et est envoyé pour mener l'enquête Alex Meurice, fils de l'ancien jardinier du château, qui à l'époque a eu évidemment une histoire d'amour avec la fille du château et que la duchesse a envoyé loin pour mettre fin à cette histoire d'amour. Il revient pour enquêter et non sans être surpris que la procureure lui colle comme co-enquêteur, en l'occurrence co-enquêtrice, la duchesse qui étant mère a le droit, mère M-A-I-R-E, a le droit de mener l'enquête avec lui. Donc voilà, ça va être notre duo d'enquêteurs. Voilà, procureur étant joué, et ça c'est le petit clin d'œil, par ma sœur Sophie de La Rochefoucauld, que je ne pouvais pas évidemment écarter totalement de ce casting, parce que j'avais envie de l'avoir à mes côtés en clin d'œil, et voilà, elle a accepté très gentiment de venir faire une petite participation. Voilà, Sophie de La Rochefoucauld jouant la procureure de la République, ça me plaît beaucoup.
Alors, première scène, c'était la réception au château que tu as tournée dès début avril. Comment ça s'est passé, mettre en scène autant de monde à la fois? Tout le monde a bien écouté?
J'ai une très bonne équipe, d'abord. J'ai une très bonne équipe. On était accompagné d'un drone avec un très bon droniste, d'ailleurs, qui vient de Bordeaux. Une équipe de dronistes qui viennent de Bordeaux et qui sont donc de la région, qui sont absolument formidables. Il y avait 80 figurants, tous pris évidemment à La Rochefoucauld. Voilà, non, les gens ont été super. Voilà, c'est très bien passé. Je voulais dire aussi que dans le casting, on a cité les Parisiens, mais en fait j'ai 14 comédiens qui viennent de la région. Sur 25 rôles, il y a 14 comédiens qui ont été engagés à Bordeaux et à Angoulême. Et ça, pour moi, c'était très important.
Ouais, je crois que c'était très important effectivement de faire travailler aussi les comédiens de la région qu'on a déjà vu effectivement dans des fictions, dans des meurtres qui ont été tournés ici. Pourquoi Pérule au château justement? Pourquoi pas Meurtre à La Rochefoucauld?
Alors c'est un titre provisoire. Nous ne sommes plus pour des raisons, nous ne faisons plus partie de la collection des meurtres. Je pourrais pas t'en donner les raisons exactes. Et donc c'est un titre de travail, hein, Pérule au château. Je sais pas du tout s'il va rester ou pas. On pensait peut-être chercher un titre autour des mystères parce qu'il y a beaucoup de mystères dans ce film. Il y a plus de mystères que de péril. Voilà, péril au château, les mystères du château, mystère de La Rochefoucauld. Bon, c'est vrai que moi, évidemment, je suis pas très objective. J'aimerais bien que le mot
La Rochefoucauld dedans, bah oui.
Alors pas du tout pour me faire de la pub à moi, parce que ça, je m'en fous. Les gens connaissent pas les noms des réalisateurs en télévision et c'est très bien. Mais surtout pour faire de la pub au château et à la ville de La Rochefoucauld.
Eh bien, très beau rendez-vous qu'on verra bientôt sur France 3. Et puis, écoute, on va essayer de t'organiser, évidemment, une petite avant-première dans notre région pour venir le présenter. On n'y manquera pas, bien entendu. Claire, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu sur ton temps, parce qu'en plein tournage, voilà, je sais que le planning est serré. Merci à toi.
Merci beaucoup, Alain. À très bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé, évidemment, consacré au grand retour pour sa 7e saison. Tournée à 7, que de chiffres. Porte-bonheur, j'espère, en tout cas, pour Candice Renoir. C'est vendredi à 21h10 sur France 2 avec Cécile Bois qui est avec nous. Je crois qu'on a fait quasiment tous les lancements de saison ensemble, Cécile, ça va?
Merci pour votre fidélité, Alain.
Mais on est toujours là. Et alors là, on a de la chance, parce que d'habitude, on les a en séparé d'une semaine sur l'autre. Mais là, eh bien, Raphaël Langlais est avec nous aussi. C'est Antoine Dumas, évidemment, que vous adorez aussi. Raphaël, salut.
Bonsoir, merci de nous accueillir et de nous soutenir.
Écoute, on est là, tu le sais, chaque saison, on est au rendez-vous. Tournage à 7, on le disait, 7e saison. Est-ce que ça veut dire quelque chose de plus, Cécile?
Rien de plus.
Satisfaction d'avoir battu Koh-Lanta quand même l'année dernière, non? C'est toi qui as battu.
Alors on arrête cette interview.
Oui, c'est vrai qu'attention, il faut spécifier que l'année dernière, Raphaël a réalisé les épisodes et c'est ceux-là qui ont battu Koh-Lanta.
Voilà, j'ai tout dit. Vous pouvez envoyer la musique.
On va envoyer la bande-annonce alors. Non, mais ça doit être une satisfaction, honnêtement, de voir pour une 6e saison arriver à battre Koh-Lanta TF1 qui est un rouleau compresseur et arriver à avoir cette fidélité du public.
C'est vrai que chaque année, moi, je me dis, on arrive à la saison qui fait qu'on a réuni déjà un maximum de téléspectateurs et que ça devrait maintenant un peu tomber lassé parce que il y a un paysage audiovisuel qui bouge beaucoup. En plus, maintenant, il y a beaucoup de supports qui sont très différents. Donc Candice va passer comme d'autres séries sont passées et à notre plus grand étonnement, pour l'instant, les gens restent, sont fidèles, nous témoignent, en tout cas à moi, pas à lui parce que lui, il est beaucoup moins aimé que moi. Mais...
Voilà, ça c'est fait. C'est pour ça qu'il passe derrière la caméra maintenant.
Oui, voilà. J'ai pas le choix, on me jetait des cailloux.
Non, donc qu'on ait battu Koh-Lanta, c'est pas une fin en soi, c'est pas un but non plus, c'est une anecdote qui nous amuse bien, faut le dire, au moment où ça se passe. Et puis après, on continue à essayer de faire des épisodes qui se tiennent et prendre le plaisir qu'on arrive à prendre.
Alors Raphaël, en plus bien occupé, puisque cette année, c'est les Ombres Rouges aussi sur C8. T'arrives à avoir encore le temps de dormir ou pas, Raphaël?
Là, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps parce que j'ai réalisé encore à nouveau 2 épisodes. Donc j'ai fini la saison... C'est quelle saison qu'on fait? 7. Et j'avais 17 jours de comédien sur 21. Et là où la première fois où j'avais réalisé 2 épisodes, j'avais eu que 4 jours sur 20. Donc c'était très compliqué, et pas que pour moi et pour l'équipe, parce qu'il y a forcément à un moment donné une difficulté. En plus, bon, l'intrigue était un peu particulière. J'avais des effets spéciaux, des fonds verts, du maquillage, plus que d'habitude, mais je peux pas en révéler. Donc il y avait quand même beaucoup d'obstacles, des décors pas faciles, loin. Et en plus, au-delà de ça, on est en fin de saison, et en fin de saison, tout le monde est fatigué, Cécile et toute l'équipe. Mais encore une fois, il y a eu un dépassement qui, moi, m'a beaucoup touché jusqu'à la fin, jusque dans les derniers jours, avec même des blessures et des gens usés. Donc dormir, bah, ça sera à partir de maintenant. Là, je suis que en montage, ça va être beaucoup plus simple et j'aurai beaucoup moins de choses à gérer, à part des regrets en visionnant certaines choses. Mais je pense que j'en aurai pas beaucoup.
C'est des épisodes qu'on verra dans 4 semaines. Voilà, ça sera pour le final de la saison. Voilà, comme ça, on pourra en mettre une petite couche d'eau et finalement, tu reviendras pour la fin.
Voilà, pour rebattre Koh-Lanta.
Bon, alors ils ont qu'à bien se tenir. Enfin, ils sont peut-être là ou pas d'ailleurs à ce moment-là. Alors, il y a une nouvelle donne qui, parce que voilà, on a laissé évidemment une saison 6 axée, voilà, on disait sur l'amour, la famille, etc. Quel va être le fil rouge de cette 7e saison, Cécile?
Alors, les auteurs diront que c'est la famille. Moi, je dirais que c'est plutôt la recherche de la vérité, ce que je trouve plus juste. Raphaël, tu dirais quoi, toi?
Je trouve ça très juste aussi. Et puis, la famille, pour moi, c'est un thème peut-être trop flou. De ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, surtout particulièrement sur ces 2 derniers épisodes, ce que vient de dire Cécile est très juste, parce que c'est, il y avait quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets entre les personnages dans leur mode de fonctionnement. Et bon, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on peut pas trop en révéler, mais il y a beaucoup de choses qui ont explosé, qui se sont révélées. Et oui, c'est plus une remise à plat des rapports, mais en même temps qui n'engage pas nécessairement dans la suite du récit. Je sais que c'est très flou ce que je dis, parce que je veux pas gâcher des surprises, mais oui, c'est pas nécessairement la famille, c'est tous les thèmes. Mais oui, ce que dit Cécile est vrai, c'est la recherche de la vérité.
L'année dernière, on avait vraiment démarré sur les chapeaux de roue, on commençait la saison, je couchais directement avec Antoine après une séparation très très longue, et puis très vite on s'est mis sur la tronche. Là, on est sur une saison qui va être un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va démarrer doucement, un peu comme un livre qu'on va ouvrir et où on va redécouvrir les personnages avec de nouvelles donnes, et au fur et à mesure du livre, toutes les pistes vont se réunir petit à petit pour s'accorder sur les, on va dire, sur les 4 derniers épisodes à peu près. Voilà.
Cécile Barret, est-ce que ça laisse un peu le temps de faire autre chose?
Je le prends. L'année dernière, par exemple, j'ai fini Candice, j'ai eu 3 semaines, je crois, de repos. Et puis, j'ai enchaîné avec un film qui n'est pas encore sorti pour France 2, qui devrait sortir je ne sais pas quand, d'Olivier Barma, qui s'appelle Examen de conscience. Et puis, tout de suite après, j'ai enchaîné en une nuit. Je finissais à Marseille le jeudi soir. Le vendredi matin, j'entamais l'autre tournage à Paris qui s'appelait Tu vivras ma fille pour TF1. Et puis, une fois que j'ai fini Tu vivras ma fille, j'ai eu une semaine pour enchaîner avec le début de saison de Candice. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait le choix de pas m'épargner. Cette année, je vais respirer un petit peu plus, parce que finalement, ça fait 1 an que je travaille, donc j'ai besoin de me poser pour moi, pour ma famille, ce qui m'empêchera pas de faire des choses à côté, mais qui sont parallèles, pas nécessairement sur des tournages, mais qui sont parallèles, voilà, à ma vie.
Eh bien, on va voir le résultat, en tout cas, vendredi, donc, sur France 2. Voilà, on va continuer à en parler, évidemment, tout au fil de ces semaines de Candice Renoir. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Merci. Et
merci à toi. Merci à vous.
Pourquoi tu m'as pas prévenu, Antoine?
Je voulais pas gâcher ta lune de miel, c'est tout. Voilà.
Ma lune de miel? Mais c'est à moi d'en décider. Tu m'as fait peur.
Oh, t'as eu peur, hein?
Tu sais quoi? En fait, tout ça, ce serait jamais arrivé si t'étais venu à mon mariage. D'ailleurs, pourquoi t'es pas venu? Parce que nous, on t'a attendu, tu vois. Tu nous fous dans la merde, Antoine. Et Valémédie, t'y as pensé 2 secondes à Valémédie?
Parce que c'est de ma faute, je me suis fait renverser par une voiture.
Mais bien sûr que c'est de ta faute. Ta mère, elle t'a jamais appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser. C'est pas compliqué, ça, tu sais.
Oh, quel dommage, il est marié. Bah, dites donc, elle a pas l'air commode, sa femme.
Non, c'est ma femme, en fait.
Elle aurait mourir.
Ouais, ouais,
et ta
c'est
fille,
ma femme.
Elle aurait été orpheline.
Enfin, je crois.
C'est logique.
Je lui aurais dit quoi, moi, à ta fille? Ben, ton père, ça y est, il est mort, il a traversé, il a même pas regardé à droite et à gauche.
Allez, les amis, on se retrouve dans 3 minutes. Surtout, ne bougez pas. Annie Dupéré fait son arrivée dans Chute, on écoute la télé pour nous parler de Just Gigolo, qui sort mercredi dans les salles. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Oh, Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Vous l'avez adoré évidemment dans le rôle de Catherine Beaumont. Elle l'a accompagné évidemment presque des décennies de téléspectateurs, dont moi je fais partie avec une famille formidable. Et on est très heureux de l'avoir avec nous puisqu'elle est à l'affiche non seulement de Just Gigolo cette semaine, le film de Olivier Barou, le nouveau film d'Olivier Barou qui sort mercredi dans les salles, et elle est en plein tournage. Péril au château, c'est en ce moment en tournage en Charente. Annie Dupéré, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un immense honneur pour moi de vous avoir avec nous, Annie. Alors ce film qui sort mercredi, un tournage, bref, vous fourmillez de projets sans arrêt.
Oh, ça c'est, j'étais très contente effectivement de faire ce film avec Olivier Barou et Kad Merad. Je les connaissais pas, je les apprécie beaucoup et c'était vraiment, on a beaucoup ri et je pense que le film va être quand même très 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 drôle, voilà.
Alors c'est l'histoire d'un gigolo qui d'un seul coup se fait virer évidemment et qui trouve exil chez sa sœur et voilà, il va s'en découdre évidemment toute une suite d'histoires avec ce gigolo joué par Kad Merad, où il va rencontrer Samantha, le personnage que vous jouez.
Parce que quand même, comme il a été viré par sa vieille, il en cherche une autre, voilà. Donc c'est quand même rare dans le cinéma un casting de vieille, il fallait pas le louper quand même.
Vous êtes beaucoup amusé?
Ah oui, oui, on a beaucoup ri, on a beaucoup ri, oui, oui.
Donnez la réplique à Kad Merad, comment ça s'est passé vos scènes?
Ah ben, bien, c'est un très bon comédien, un gentil partenaire, puis ils sont très amusants tous les deux, et c'était chouette.
Vous avez vu combien de jours de tournage là?
Alors, je sais plus, une huitaine, je crois, quelque chose comme ça, voilà.
Alors ne le ratez pas, ça sort mercredi dans les salles, mais en tournage en ce moment, c'est Péril au château aussi, oui. Ça c'est du côté de La Rochefoucauld en Charente, c'est un film réalisé par Claire de La Rochefoucauld, que l'on verra prochainement sur France 3, on en reparlera bien évidemment. Alors vous jouez le rôle d'une duchesse, c'est
voilà,
ça?
Je joue le rôle de la duchesse, qu'on a inventé un nom, c'est la duchesse de Lécile, qui vit donc dans ce beau château de La Rochefoucauld. C'est quand même assez inhabituel de faire un film dans un château avec la descendante, quand même, comme réalisatrice. C'est quand même pas courant. Et Claire est vraiment très agréable à tourner. Elle est très fière, je crois, et très émue de tourner dans le château de famille, quand même. Et nous aussi, c'est quand même une expérience extraordinaire d'avoir comme ça une des descendantes qui réalise un film chez elle.
Alors, elle était avec nous il y a quelques instants, on en a parlé il y a très longtemps avec Claire de ce projet, il y a un peu plus d'un an. Dès le départ, elle m'avait dit « je veux Annie Dupéré ».
Oui, c'est gentil de sa part, bien sûr. Et non, le rôle est très beau, parce que certes c'est un polar, puisque on aime beaucoup les polars pour nos fictions françaises, donc c'est un polar, mais c'est quand même un film psychologique derrière, et il y a une très très jolie évolution de ce personnage qui a une rigueur comme ça et une tenue toute aristocratique et tout, qu'elle a transmis à sa fille d'ailleurs. Et cette pauvre femme va découvrir quand même que ce qui se passe derrière n'est pas simple et qu'elle n'a rien vu. Voilà, elle prend ça à travers la figure et tout à coup elle va effectivement porter un œil neuf sur la vie en général, sur sa fille, sur les choses. Donc c'est un très beau personnage, j'aime beaucoup.
Alors, il y a quelques mois, on a vu la dernière saison d'Une famille formidable. Vous n'êtes pas contre un retour dans quelques années, mais il y avait vraiment besoin d'une pause, je crois, pour toute l'équipe qui se faisait sentir.
Oui, il y avait besoin d'une pause. Et puis surtout, il y avait une grande raison principale, c'était que le créateur et grand complice que nous avions, qui était d'ailleurs devenu le producteur, Joël Santoni, et réalisateur et en co-écriture aussi avec des scénaristes, a disparu, il est mort. Il est mort en mois de mai dernier, donc nous avons tourné cette série quand même, dont il avait initié une partie. Et puis bon, ça, je pense que voilà, il fallait arrêter. Et puis, je vous confie que moi, tourner tous les ans, on n'avait pas le temps de faire comme on le faisait au début, de discuter des thèmes, d'amener nos propres idées. Quelquefois, non, les scénaristes avaient à travailler tellement vite que finalement, on n'était plus tellement consulté sur les scénarios et que c'est pas comme ça qu'on avait pris l'habitude de faire cette série qui n'était pas une série comme les autres.
C'est clair, c'était pas une série comme les autres. Merci en tout cas Annie d'avoir été avec nous. On vous retrouve à l'affiche de Just Gigolo, ça c'est mercredi dans les salles, le nouveau film d'Olivier Barou. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et il y aura une séance de dédicace jeudi à 18h à la librairie Cosmopolite d'Angoulême.
Eh bien, comme j'ai un jour où je ne tourne pas, et le libraire de la librairie Cosmopolite m'a demandé de faire une signature et une petite conférence rencontre avec les gens. Donc pour qui a envie de prendre un thé, un petit gâteau et qu'on discute des livres, mois, c'est à 17h à la librairie Cosmopolite.
Merci beaucoup, Annie.
Ok, au revoir.
I'm a boss and you can't stand it. Little man gonna stand there and light it for the first crack.
Je suis désolée, Alex, mais c'est fini.
Qui va à la chasse perd sa place.
Tu te sens comme orphelin.
Orphelin de la maison, de la piscine. C'est la première fois que je suis au chômage.
T'as quoi? 50, 60?
Ah non, beaucoup moins.
Ah bah tu fais plus. T'as pas de la famille dans le coin?
Ah bah je voulais voir ma sœur et ma petite nièce.
Neveu. Hugo, tu sais, je t'ai parlé de ton oncle Alex. Feignant, moche et débile.
Oui, c'est lui.
Allez, champion, tu vas rebondir.
La règle à la maison, c'est tu salis, tu nettoies.
Je savais pas qu'on pouvait faire ça.
Mais on peut pas faire ça.
Voilà ce que tu vas faire.
C'est une amie à toi ?
Eva, elle sait même pas que j'existe.
Tu vas te trouver une nouvelle femme, plus riche et plus vieille que Denise. À ton âge, tu peux plus te lancer dans une aventure trop longue.
C'est qui ?
Sa grand-mère.
Oh, elle est parfaite. Et un grand-papa hirsch ?
Et il est mort l'an dernier.
Excellente nouvelle !
Si je te disais qu'avec mon savoir, tu peux obtenir ce que tu veux.
On commence quand ?
Leçon numéro 1, tout est dans le regard. Accroche bien le regard de ta proie. Accroche, accroche, accroche !
T'as décroché ?
Je peux savoir ce que t'apprends mon fils ?
Dernière leçon du jour. Ta démarche. Relâche tes fesses. Et un petit hula hoop. Oh, oh, il est boulot.
Tu sais, plus les années passent, plus elles veulent de la fraîcheur.
C'est de la merde.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et bien, on se retrouvera donc lundi prochain pour une toute nouvelle émission de Chute, on écoute la télé en ce lundi de Pâques. On vous proposera un best-of pour revivre ensemble et bien les meilleurs moments de cette saison de Chute, on écoute la télé. Dieu sait que ça va être compliqué à choisir. Mais en tout cas, voilà, on vous attend pour ce lundi de Pâques. En tout cas, lundi prochain, même heure comme d'habitude, bien évidemment, pour un best-of exceptionnel. Et puis, on se retrouvera évidemment dans 15 jours. En inédit, on recevra encore, et bien oui, des acteurs de Candice Renoir qui seront nos invités. On recevra également Jean-Charles Chagache-Bagnan, également qui est en tournage du côté de la Charente. Il joue Franck Ruiz dans Plus belle la vie. Il viendra nous livrer quelques secrets du futur de son personnage, bien évidemment, et plein d'autres surprises dans une quinzaine de jours. Restez connectés, évidemment, sur notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chut, on écoute la télé, la quotidienne sur Radio Bulle dès 11h. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous évidemment dès lundi prochain à 19h pour la grande hebdo. Alors d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.